Vous êtes toujours à l'écoute du 106.2. Je vais le faire moi-même, le jingle. Après, on demandera à chaque Aponk de le faire, puisqu'ils sont avec nous. Bah voilà, ils vont le faire tout seuls.
Jingle Radio Esperanza.
Esperanza, le radio qui est la puta madre. Alors, on est bon en jingle ou
pas? Il est pas mal, il est pas mal. Ouais.
C'est pas mal.
Merci.
On peut faire mieux, on verra à la fin. Bonsoir, chaque Aponk.
Bonsoir.
Alors, ça veut dire quoi d'abord, chaque Aponk? C'est un truc que je me pose. Ça fait longtemps que je me pose la question, en fait.
Écoute, bonne question. Au début, alors, tu sais, quand on fait des groupes de rock, il y a un moment, on se dit, il faut trouver un nom.
Et là, c'est
en général, c'est le début de la galère.
Donc là, tu prends 5 grammes et puis après 5 grammes, non, tu décuis, mais... t'as toujours pas de nom.
Non, mais en fait, on était persuadé que c'était le nom d'un groupe qui existait à l'époque. On était très jaloux de ce nom. On se disait, c'est vachement bien ce nom. On aimerait bien l'avoir. Et en fait, on a passé des mois à croire que ce groupe existait. Et en faisant des recherches sur Google, on s'est rendu compte que pas du tout. Ça n'existait pas. Donc on s'est précipité sur ce nom.
Mystique.
Et maintenant, il y a peut-être des groupes qui se disent « Oh putain, on aimerait bien s'appeler Chaka Funk, mais ça doit exister. »
Donc ça, en fait, c'est un nom par rapport à Google, quoi.
En gros, c'est ça. Après, on s'est rendu compte que Chaka était le nom du premier Bouddha quand le bouddhisme est arrivé au Japon, ce qui correspondait un peu à nos images sur scène. Et puis le côté punk, donc il y avait une espèce de je regarde Sam parce que... En général, quand je parle trop, mais je vois pas tes yeux, donc je sais pas si t'es pas contente.
C'est exprès, c'est
d'accord.
Exprès.
Et donc, il y avait le Chaka côté un peu Bouddha et le punk de l'autre côté, et ça représentait pas mal les deux extrêmes de Chaka punk.
Bon, avant de continuer, je vais quand même commencer par le début. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que Chaka punk, c'est le collectif, mais là, vous êtes trois.
Voilà, ben moi, c'est Samaa, la chanteuse.
Et moi c'est Fra, le chanteur, et il manque Yon qui était là il y a deux secondes, et je pense qu'il cherche les toilettes.
D'accord.
Toujours. Le batteur, qui n'est donc pas là, mais qui devrait être là dans quelques instants.
Alors comment ça a débuté, à part le fait de rechercher un nom, c'est quoi l'histoire de ce groupe, du groupe?
Bah à la base, en fait,
on a des questions bateaux.
C'est très intéressant, au contraire, je suis passionnée.
Bing. Voilà, c'est bon.
À la base, en fait, on est un collectif, c'est-à-dire qu'on est une bande de copains qui faisons du graphisme, de la guitare, de la musique, de musiciens. Et on a décidé de s'exiler à Berlin il y a quelques années, il y a quoi, 8 ans, 7-8 ans.
C'était en 2004, je l'ai appris tout à l'heure.
Après, je te laisse faire le calcul.
Pardon.
Et au final, au début, c'était un peu du vidging, en fait. On faisait pas mal d'images, on était plutôt dans l'image, d'où le côté geek, quoi, le nom du dernier album. Et au final, en fait, au départ, c'était une coïncidence parce qu'on a fait un concert à Berlin où l'écran est tombé en panne. Moi, j'étais pas sur scène encore au départ, c'est-à-dire je posais les voix dessus en tant que chanteuse, mais c'était Fra qui seul posait les voix. Et l'écran est tombé en panne.
C'est-à-dire que pour Fra, il a fallu assurer grave comme ça de minute en minute.
Il chantait derrière l'écran, il était content, il était tranquille, ils ont voilà. Et maintenant, l'écran est tombé en panne et donc il s'est mis à devoir prendre le micro et à se mettre devant.
Bonsoir. Ça a été. Oui, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être éventuellement, en plus du singe qui était donc sur l'écran et qui était censé être le seul porte-parole, il fallait peut-être éventuellement qu'il y en ait un devant en cas de panne qui soit là pour représenter quelque chose de concret pour les gens. Donc du coup, je suis resté devant, mais à chaque fois, mais encore ce soir, hein, quand je monte sur scène, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, sans déconner. Alors maintenant qu'il y a Sam, ça va mieux.
Je suis rassuré. C'est vraiment dur pour toi de monter sur scène.
On commence à s'habituer.
C'est de la peur physique.
Non, pas de la peur du tout. C'est une espèce de montée d'adrénaline incroyable et d'excitation folle. Pas de trac vraiment.
Moi aussi. Hein.
Voilà, Sam est plus trac, mais surtout, je me dis à chaque fois que c'est un accident. Et donc à chaque fois, je me dis mais c'est incroyable que je me retrouve là, devant avec un micro, alors qu'à l'école j'osais pas parler. Parce que j'avais peur, et là c'est incroyable. Maintenant que ça m'est là, j'ai moins peur parce qu'elle est quand même impressionnante.
Ah.
Donc je me cache derrière elle. On me voit dépasser un peu. Mais
c'est faux.
La transformation, elle se fait comment? C'est vraiment quand tu montes sur scène ou ça a été une évolution aussi personnelle?
Ah bah on a eu une bonne école. On était à Berlin et on bossait avec des gens qui étaient
rigoureux,
qui étaient très très rigoureux et qui nous ont appris des choses très précieuses quant à la rigueur sur scène et être capable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive comme panne, quoi qu'il arrive comme problème, quoi qu'il arrive comme public, de faire comme si tout était normal. Donc on a appris quand même pas mal à bosser et ça nous a aidé ça.
Berlin, on a souvent dit comme Eldorado pour les Français, c'était...
Non, j'allais la poser,
ça. Ah merde, vas-y, je te la laisse.
Mais là, on n'a pas dit, mais il y a un type qui tourne avec une caméra, donc il m'a distrait.
Mister Monkey TV.
C'est quoi cette histoire de Berlin? Parce que moi, j'habite Bruxelles et on est en train de dire que Berlin est en train de doubler Bruxelles dans l'alternatif, le graphisme, dans le bordel, dans le punk.
Eh ben, écoute,
comment vous
pas.
Avez atterri à Berlin? C'est quoi l'histoire?
On a honte de le dire.
Non, mais allez-y, on n'a pas de tabou ici.
En fait,
c'est clair, mais ça aussi, Bruxelles est en train de descendre.
On voulait juste partir de Paris pour
se mettre en danger.
Pourquoi donc? C'est beau cette ville de Paris.
Exactement.
C'est un grand musée. Avec
non, c'est naze Paris.
Non, c'est pas vrai. C'est magnifique, mais on voulait pas être chez nous pour faire ça. On voulait pas être dans notre environnement classique et on voulait surtout ne pas avoir la possibilité d'arrêter. Parce que ce serait difficile et donc de se retourner vers nos potes, nos familles, nos amis pour s'en sortir. Une fois qu'on était à Berlin, on n'avait plus le choix. Il fallait absolument qu'il se passe quelque chose et que le groupe naisse. C'était une petite pression qu'on s'était mise. Mais en l'occurrence, on est arrivé là-bas sans connaître et on s'est rendu compte que c'était une ville extraordinaire pour faire des groupes de rock avec un singe.
À Paris, vos références c'était le quartier, Ménilmontant, Oberkamp, j'imagine.
Ouais, pas mal. Le Marais surtout pour Yon. Ouais. Qui est arrivé là.
Yann qui vient d'arriver.
Voilà, le batteur est là.
On le dit.
Coucou les coco. Donc oui, on était à Châtelet en fait.
Moi aussi j'aime bien le Marais.
Oui, toi t'aimes bien. On était dans le centre, on avait un grand appart qu'on squattait à 50 000 pour faire n'importe quoi dedans et ça a été le point de départ. C'est là où un jour on s'est dit, je me rappelle de ce jour-là très bien, c'était un dimanche matin après une énorme fiesta.
Ah, j'ai peur.
J'ai dit, putain les gars, on se casse à Berlin. Ah ouais. Donc au début il y avait un petit peu de réticence, puis je crois que mais 3 jours après on était parti quoi.
Mais vous étiez combien en tout dans cet appartement à faire la fête?
À faire la fête 150. Non mais vraiment, il y a des fois on était 150. Je me rappelle une fois on avait compté, on était 150. Mais sinon on habitait à 7-8.
Il y a un moment où vous avez eu peur de vous y paumer dans cet appart peut-être?
Parisien. Disons que encore une fois on avait une ambition artistique un peu invendable en France et on se disait voilà on va s'énerver avec 2-3 idées de visuels de singes guerriers de l'écologie et de musique un peu électro, on va se faire têche de partout puis après on va faire autre chose et on va se dire tous au revoir, donc c'était pas le bon endroit pour alors que Berlin on était presque pas originaux là-bas.
On voulait vraiment lier le son et l'image en fait et c'était pas on va dire à la mode.
Vous disiez tout à l'heure que ça a vraiment été une école de rigueur. En quoi c'était cette école de rigueur? Qu'est-ce que vous avez vraiment appris là-bas? Vous a tapé sur les doigts avec la règle?
Oui, c'est ça. Presque. Mais c'est ça en fait. Presque. Quand on est arrivé on avait donc rien d'autre qu'un...
Pas de méthode.
Oui, puis en fait alors je sais pas si il y a vraiment une différence de mentalité hein, sur la façon de travailler. On parlait beaucoup de Rammstein à l'époque. C'est-à-dire que le mec avec qui on bossait, avait bossé avec eux. Il disait, les gars, vous vous rendez pas compte. Vous parlez de Rammstein, vous parlez de groupe de rock comme ça, mais les mecs, c'est des bosseurs. C'est pas juste, ils arrivent sur scène, ils se mettent à cracher du feu avec des allumettes.
Ou ouais, à cuisiner le batteur dans une marmite, quoi. Avant, il y a quand même du boulot.
Ouais, exactement. Et ils travaillaient énormément. Donc, on nous a appris à pas croire que si on faisait un super concert et que l'ambiance était à la fête et qu'on avait la patate, ça voulait dire qu'on était capable de le faire tout le temps. Donc en l'occurrence, les gens avec qui on a bossé nous ont mis avec des groupes de métal très difficiles
à suivre,
avec un public très difficile.
On faisait les premières parties.
Voilà, à réussir à attraper un public qui voulait tout sauf nous. Et donc ça a été un travail, mais je vous dis pas de conneries, c'est-à-dire qu'on répète, ils nous coupaient les retours pour qu'on apprenne à chanter,
se mettre en danger, quoi.
À y arriver même si on était en danger, voilà. Et ça a été vraiment dans un bloco, enfin c'était horrible, quoi. C'était vraiment comme Wayne's World un peu avec les balles de tennis.
Il y a eu des moments de doute d'ailleurs dans cette période-là où vous avez dit on rentre à Paris, on retrouve l'appartement et les 150.
Jamais on rentre à Paris parce qu'on était
on
un
a pleuré
têtu.
Un peu quand même.
Mais il y avait, mais c'était ça qui était bien dans le collectif, c'est que quand il y en avait deux qui craquaient, il y avait les autres qui les rattrapaient. Ouais. On craquait pas tous en même temps, heureusement.
Bon alors, dans chaque appunk, tu le disais tout à l'heure, il y a le côté punk. C'est marrant, mais avec Étienne, on a pas mal fait d'interviews de d'ex-punk, ouais. Ou en tout cas de punk, mais un peu vieux maintenant. Notamment un directeur de je vais pas citer le label, mais on sait très bien qu'en France il y a un directeur de label qui est considéré comme alternatif, qui est un ancien du milieu punk, qui est un gars très sympa d'ailleurs, et qui on le sent très bien regrette une certaine époque, son époque punk des années 80. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui le punk? C'est pas mort?
Alors le punk a toujours été difficile de se revendiquer punk, parce
c'est,
que
c'est un mot qui vous parle justement, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un mot qui vous parle encore? C'est
c'est une sorte de punk moderne, quoi, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que les revendications sont ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on est plutôt après on est dans un monde où tout part en vrille, on va dire. Et après c'est vrai qu'on est sensibilisé par des sujets. Quand on parle d'écologie, à l'époque c'était les vieux. Maintenant on peut être sensibilisé par des sujets comme ça, et je pense qu'aujourd'hui par exemple Veiller au monde, c'est punk. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire que c'est tout à l'envers, c'est les vieux. Enfin, on est steampunk. Non, mais c'est-à-dire que ça devient punk de veiller sur, d'avoir envie de.
Avant c'était No Future, et maintenant
c'est ce que j'allais dire, c'est No Future, mais quand même, quoi.
Bah là maintenant il faut qu'il y ait du futur, mais.
Punk moderne, quoi.
Voilà, je vous présente Yon, je fais un jingle.
Salut, c'est bon, t'as trouvé les toilettes?
Ouais, c'est
cool.
C'était un cri d'alarme, ce No Future que criaient les Sex Pistols et les punks, je pense. Et nous, en l'occurrence, on sert du punk pour exprimer un message qui a plutôt un fond, on va dire, chaka, un peu bouddha, un peu peace et écolo, mais on sert du punk pour l'exprimer, quoi. Et je pense que c'était déjà dans les années 80 un mode d'expression pour des mecs qui galéraient à se faire entendre et à dire ce qu'ils avaient à dire. Et le seul moyen qu'ils avaient, c'était de le faire comme ça, quoi, par le biais du punk. Et ça continuera toujours, même si ça s'appellera pas punk. Le hip-hop, je pense, l'a un peu remplacé dans les années 90.
C'est une certaine revendication quand même, quoi. C'est en ça qu'elle.
Ceci dit, le monsieur dont tu parlais, ou d'autres gens qui ont vécu cette époque vraiment. Punk, je pense, ne pourrait pas dire que Chaka Punk est un groupe de punk, vu qu'on passe notre temps sur des ordis à faire des disques avec des plugins et enfermés dans nos trucs à faire nos clips avec des trucs After Effects et Photoshop. Donc du coup, c'est beaucoup moins sale qu'à l'époque du vrai punk, où c'était des roots, quoi, mais ça, c'est une émotion.
Sur cette notion d'engagement là, vous avez pas l'impression que ça manque un petit peu en France? Lisette va vous poser une question tout à l'heure, mais on y reviendra, je pense, avec cette question. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une descente, la fin d'un temps comme ça, où des groupes réellement sans marketing, sans discours surfait, ont porté des choses pendant un certain temps. Je pense à La Mano Negra, je pense à Noirdaise. On va y revenir. Mais aujourd'hui on vit dans un monde un peu aseptisé de ce point de vue-là, non? Musicalement parlant.
Mais c'était encore plus vrai, j'ai l'impression, il y a quelques années, parce que grâce au net, grâce à Internet, c'est un moyen de d'expression pour des groupes qui sont pas forcément formatés et qui rentrent dans les cases
des médias.
Que des médias qui, enfin, certains médias veulent pour diffuser ça. Et je pense qu'Internet, justement, c'est l'avenir de ce style et de cette expression, quoi. Des groupes comme La Mano, tout ça, j'espère que par le futur, il y aura des groupes, de plus en plus de groupes comme ça, qui pourront s'exprimer et voir conquérir un public et se constituer une vraie fanbase grâce au net, quoi, sans l'aide sans vraiment beaucoup d'argent. Et
comment vous abordez justement Internet? Vous, tout à l'heure, on recevait un rappeur belge qui s'appelle Gandhi, qui nous disait: moi, maintenant, mes chansons, je les enregistre directement, je les mets sur une clé USB et je distribue tout ça à la sortie du concert. Vous, comment vous voyez tout ça? Comment on fait de la musique et comment on peut en vivre?
Alors nous, on est très... Alors, on a une façon de travailler depuis le départ qui est carte son, ordinateur, c'est-à-dire qu'on ne va jamais en studio. Et effectivement, on a nos petits portables avec la carte son, on branche la guitare dedans, un micro, on fait des batteries avec des plugins. Enfin, tout le concept de ce groupe, c'est justement c'est très geek et au-delà de ça,
En même temps sur scène ça allait pas.
Voilà. Ouais, alors
d'ailleurs j'allais te dire exactement. Si j'avais vu des geeks je te l'aurais dit tout de suite. Et je pense que t'aurais pas passé la porte du studio. Quoi. Non mais c'est vrai. Comment on traduit cet effet geek dont tu parles?
C'est notre paradoxe.
Bah je sais pas.
Parce que tout à l'heure on n'étiez pas avec des ordi et des Atari sur scène.
Non, c'est vraiment
le paradoxe,
le côté collectif, la débrouille, le fait que le net et la façon de travailler des groupes, heureusement, a énormément évolué. C'est énormément collé à l'image aussi, grâce à des Facebook, des YouTube, des Dailymotion qui permettent à des groupes de montrer aussi ce qu'ils sont, pas seulement de le faire écouter et de s'exprimer visuellement. Donc ça, il y a un nouveau style de groupe qui naît comme ça, comme à l'époque où les DJ sont arrivés dans les groupes de rock, où on se disait mais c'est pas possible, on peut pas intégrer un mec avec des platines dans un groupe de rock, même si éventuellement ça s'appelle de la fusion. C'était, et puis finalement ça s'est fait, ça s'est super bien fait. Là je pense qu'on rentre dans une ère où tout groupe de rock qui se respecte va intégrer un graphiste qui va donner une espèce d'image visuelle. Qui va s'exprimer artistiquement, visuellement et faire évoluer le son jusqu'à une dimension graphique. En tout cas, c'est ce que nous on fait et c'est ce qu'a fait Gorillaz évidemment. Et puis c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant grâce à
Je rebondis sur ce que tu dis. Gorillaz, le gorille, enfin le singe, tout ça c'est une inspiration, c'est une signature aussi de votre part sur la source d'inspiration ou pas du tout?
Écoute, oui, forcément. C'est-à-dire que le concept, encore une fois, d'avoir un graphiste dans un groupe, comme c'est leur cas, qui est lui carrément très très important dans leur concept, c'est un truc qu'on voulait faire absolument. Après, Banque de Peau, on a pris un singe aussi. Mais après, il y a King Kong, il y a la planète des singes, il y a plein de trucs avec des singes. On se dit qu'il y a de la place pour tous les singes de la Terre. Hein. On a pris un chimpanzé avec des plumes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors moi, je voulais revenir un petit peu. Justement, on discutait tout à l'heure de cette époque où il y avait beaucoup plus de groupes engagés, en tout cas en France, notamment La Mano, on a cité Noirdaise. Il y a une rencontre avec Bertrand Cantat assez récente finalement, un morceau qui s'appelle Palabra, hein, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement? Parce que d'une part, artistiquement, c'est intéressant comme rencontre. Et puis, au niveau de l'histoire, évidemment, de Bertrand Cantat, de Noirdais, comment ça s'est terminé, tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur le pourquoi du comment, quelle rencontre, quelles circonstances?
Au départ, en fait, c'était un peu... c'est totalement hasardeux. C'est-à-dire qu'on était en concert à Bordeaux, dans le sud de la France, et Bertrand Cantat allait voir ses potes qui faisaient la première partie.
C'était FL,
les Guaca. Les Guaca, qui sont un groupe de Chiliens, Vénézuéliens.
Hyper engagés.
Hyper, très très engagés, ouais. Justement.
C'est pour eux d'ailleurs qu'il a joué il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Ouais. C'était pour leur, pour les aider, pour leur association.
Exactement.
Quoi. Ça, c'est
exactement.
Des vrais punks.
Ça, c'est des punks, mais ouais, c'est incroyable.
Les mecs, ils sont exemplaires. Ils partent avec rien. Ils sont partis au Japon juste après le... Tu vois, la cata, ouais. Absolue. Allez, on y va. Il faut qu'on parte au Japon. Ils sont en galère, les mecs. Il faut qu'on aille apporter un petit peu de musique. Il faut qu'on les aide. Voilà. Ils partent comme ça à l'arrache. Ils sont évidemment allés au Chili.
Ils font des concerts. Ils donnent toute leur thune.
Ils partent en camion, tu vois.
Et ils ont pas une thune et ils s'éclatent.
Et c'est incroyable. Franchement, ces mecs-là, on a un respect pour eux qui est immense. Et du coup, Bertrand l'avait évidemment aussi. Et on a rencontré Bertrand à l'occasion d'un concert, un concert que eux faisaient. Nous, on les connaissait pas. Hein.
Ces Chiliens, vous rêvez de les accompagner là-bas
Ah, mais les Chiliens, on les a embarqués sur justement de où on s'est peint de la tête aux pieds et c'est eux qui nous peignaient parce que c'était rigolo.
Et donc vous rencontrez avec Bertrand Cantat, lui il connaissait déjà Chaka Punk?
Non, pas du tout. En fait, il a découvert, il est resté pour voir un peu ce qu'il y avait après.
Je lui ai sauté sur la gueule.
Un petit peu en même temps.
Un petit slam sur Bertrand Cantat.
Je savais pas que.
Excuse-moi. C'était hasardeux. Enfin, c'était vraiment totalement. Et il est venu nous voir après pour nous remercier, pour nous dire qu'il avait vraiment eu un gros coup de cœur. Et il était complètement. On n'y croyait pas au départ, on croyait qu'il se foutait de notre gueule.
C'est super bien entendu.
Et en fait, il a adoré, on est resté en contact et après on a échangé un peu musicalement, humainement, ça s'est super bien passé. Et au final, y a Palabra qui est sorti. Mais de partage musical, mais c'était uniquement musical, humain, et c'était très naturel. C'est-à-dire, au départ, on n'a pas dit on va faire un morceau pour le mettre dans l'album. C'est juste qu'on était content du résultat. D'accord. Et on s'est dit, on lui a dit, ça vaudrait le coup de le mettre sur l'album.
Surtout que avec notre côté français exilé à Berlin, qui chante avec n'importe quelle langue qui traîne, on nous demandait toujours pourquoi vous faites pas au moins un truc en français. Et nous, on trouvait que l'exercice était assez périlleux, surtout pour du rock. Et on disait toujours, le jour où Kanta fait un truc avec nous, on fait un truc en français.
Pour être sûr que ça arrive jamais, quoi.
On était sûr que ça n'arrivera jamais.
Et derrière, justement, parce que ce soit au niveau du théâtre ou au niveau de quelques scènes qu'il a pu faire depuis qu'il est revenu en France, il y a toujours des grandes polémiques. Comment ça s'est passé, vous, les retours derrière ce morceau, cette collaboration?
Ouais, c'était très bon.
Bizarrement, on n'a aucun. Enfin, on faut pas le cacher, on a pensé à un moment donné se faire attaquer. Mais pas du tout, bizarrement. Je crois que dans le cadre de la musique, les gens ont quand même une certaine attente. Après, je crois que dès qu'ils changent un peu de cadre, ça perturbe un peu les gens. Mais musicalement, je crois qu'il y a quand même une attente qui fait que, en interview, ça se passe toujours très très bien et les gens ont envie de le.
Peut-être que les gens qui
de l'entendre.
Ils ont pas écouté l'album Chaka Punk en même temps et c'est des amateurs de rock.
La plus grosse difficulté pour lui, elle est peut-être aujourd'hui de monter sur scène aujourd'hui. C'est peut-être pas autant sur l'enregistrement. Je sais pas comment il vit ça.
Bah, il faudrait lui demander, je crois.
On aimerait bien
bonne
l'avoir
réponse.
Ici.
Hein. Encore une fois, il se pose pas toutes ces questions. Il sait que, enfin, il a besoin de personne pour monter sur scène. Il a besoin de personne pour être toujours le fameux Kanta. La seule polémique autour de la musique, évidemment, c'est que les gens veulent voir Kanta dans Noir Désir. C'est tout. Tu vois. Donc du coup, à chaque fois que nous, on s'est dit, pendant un quart d'heure, après avoir vécu des moments exceptionnels avec lui, et puis d'avoir vraiment kiffé le fait de se retrouver avec Bertrand Kanta, puis de refaire sortir un petit peu le Kanta de Noir Désir, tu vois, le faire un peu gueuler. On a vécu des moments géniaux comme ça
magique.
Avec lui, où c'était pour nous une grande récompense. Et après ça, pendant 10 minutes, à un moment, on s'est dit, bon, on sort ce morceau. Et il se faisait défoncer la gueule par tout le monde avec sa pièce. À un moment, on s'est dit, bon, il est possible qu'on se fasse attaquer parce que les gens attendent Kanta dans Noir Désir. Et qu'à chaque fois que Kanta va dire, bon, pour l'instant, pas Noir Désir, mais Chaka Punk, il y a des chances que Chaka Punk se fasse un peu défoncer la gueule. Mais en l'occurrence, ça n'est pas du tout arrivé. C'est-à-dire qu'on a eu un accueil génial de tout le monde.
Super.
Et
pour le moment,
ouais.
Vous attendez de le faire monter sur scène à l'occasion également?
Bah oui,
on
oui,
aimerait
oui.
bien.
On
ouais.
est en train de, on est en train, on a tourné le clip avec lui là, de Palabra, qui va être assez délirant.
Il n'est pas sorti encore.
Non, on prépare ça gentiment.
On est impatient de le montrer.
et puis la scène, on verra.
Donc du coup, quand c'est comme ça, juste une petite question, vous bossez ensemble sur Berlin, par exemple, là vous parlez du clip que vous montez avec Kanta sur Palabra, vous bossez depuis Berlin avec lui aussi ou vous vous retrouvez sur Paris?
On est retourné
à Paris, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur Berlin.
Pieds à Berlin. C'est pas quand tu me parlais de Berlin qui dépasse, c'est intéressant parce que on n'a pas foutu les pieds à Berlin depuis 3 ans. Ouais.
Ah d'accord, vous êtes vraiment revenu.
Bah il y a un moment, on était nulle part, c'est-à-dire qu'on était tellement en concert tout le temps que.
SDF, parce qu'on habite dans un bus.
Enfin SDF dans un bus, pas mal.
C'est sympa.
Mais
SDF de luxe.
Mais du coup, on a hâte d'y retourner parce que c'est là où tout a commencé. Quand on est arrivé, c'était un Berlin et pendant qu'on y était, on le voyait évoluer, on le voyait aussi se dégrader sur l'ouverture. On est arrivé vraiment à un moment où c'était incroyable.
Vous avez d'autres envies comme ça artistiques, à part Bertrand Kanta, des rencontres
Guy Marchand, mais...
Guy Marchand
au saxo, donc c'est pas mal, hein. Mais il faut le destroyer un peu, quoi.
Mais je crois qu'on aime bien les choses qui se passent naturellement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'un coup de marketer quelque chose ou commencer à dire ouais.
Attends, tout à l'heure vous disiez oui, mais bon, le jour où on fait ça avec Bertrand Cantat.
Ah ouais,
mais parce qu'on était sûr que ça arriverait jamais.
Vous y pensez quand même.
Parce que non, pas
du tout. Dave Grohl. Moi j'aimerais bien Dave Grohl.
Quand on disait ça, c'est parce qu'on était sûr que ça arriverait jamais.
D'accord.
Mais sincèrement, un truc qui n'arrivera pas.
C'était notre rêve. On dit bon, si on fait si il veut bien, ok quoi.
Lara Fabian, non.
Non.
Pardon. Philippe Catherine, ouais, ça serait bien.
Philippe Catherine, ça me plairait bien.
Philippe Catherine, ça pourrait.
Ah ouais,
ça ça me plairait bien. Ça nous plairait bien,
C'est un mec qu'on a croisé plusieurs fois sur la route et avec qui on s'est plutôt bien entendu. Ouais.
Dans le genre Philippe Catherine, vous auriez pu voir, il est venu en studio tout à l'heure, Alec, elle est japonaise, c'était pas mal aussi. Vous pouvez bien vous entendre.
Ah ouais,
en début de festival.
Ah ouais, à mon
avis,
je connais pas.
Vous pouvez bien le rocker aussi.
Il faut découvrir.
Il y a un album donc qui est sorti. Ça, on va pas en parler. Vous faites de la promo sur les médias dominants, donc ici on a un
The
petit
Geeks
média.
And the Jerking Socks. Excuse me.
Voilà. J'ai pas pu m'en empêcher. La suite, c'est quoi? C'est une tournée qui continue. C'est la vie dans un bus.
C'est des vacances, voilà. Du jour, là.
Ouais. Des vacances.
Ouais. 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 Tombé le jour.
Notre dernière scène.
C'est rare, hein,
c'est la dernière. Là.
C'est la dernière avant fin août. Enfin,
ah oui. Donc comment ça commence.
Petite pause.
Sérieusement, ouais.
Et là, on a pris 10 jours de break parce que bizarrement, on a vendu pas mal de disques là avec ce truc, hein, avec cette espèce d'ovni. Donc, du coup, on s'est mis à enchaîner, mais comme on s'attendait pas du tout. Et comme on avait déjà pas mal bossé avant de commencer la tournée avec des idées de visuels sur scène un peu ambitieux qui étaient un petit peu trop durs à faire. Et puis plein de clips et plein de trucs, on était déjà crevés avant de commencer.
C'est-à-dire qu'on a eu pour idée de faire un clip pour chaque chanson, c'est-à-dire qu'il y a quoi, 12-13 chansons. Et là, en fait, on est en galère, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pause. Enfin, c'est génial. On s'éclate, tu veux dire. Mais, en fait, j'ai envie de dormir. Non, c'est juste qu'il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de pause. C'est-à-dire qu'on fait scène et tournage de clip. Et jamais dodo.
Alors demain on a une petite discussion, on fait ça tous les jours ici à 13h, vous serez plus là, mais on espère avoir les ogres notamment de Barbac. Ouais. Une petite discussion sur la musique alternative, je pense que vous êtes dans cette classification là, même si j'aime pas les tiroirs. Comment on arrive à rester alternatif quand la pente commence dans l'autre sens, hein, la montée est soudaine comme ça vient de vous arriver, c'est-à-dire vous enchaînez les concerts, vous venez d'un milieu ultra alternatif, celui de Berlin, que vous avez, voilà, comment on gère ça dans sa tête, dans un collectif?
Je crois qu'on
en fait,
fout.
Comme on disait tout à l'heure, c'est que, enfin, on n'a pas l'impression depuis 8-9 ans là, qu'on a commencé ce bordel, si je peux le dire, à l'antenne. Et on n'a pas l'impression d'avoir vraiment changé de façon de faire ou quoi. Et donc, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en faisant la même chose, depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de monde qui viennent au concert. Apparemment, on a vendu plus de disques, enfin, de celui-ci, du dernier, The Geeks, par rapport à l'ancien. Et donc, en fait, on vit pas mal l'instant présent. En fait, on se met tellement de choses à faire, hein, entre, comme disait Sam, les clips, de dossiers sur le dos, voilà. On a envie de faire un DVD d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, on va le faire. On n'a pas le choix parce qu'on s'est un peu engagé avec des gens, par exemple le label. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de taf et le fait de venir en festival comme ça ou faire les concerts, c'est mine de rien, c'est un peu un moment récréatif pour nous, où on devient vraiment les punks à sauter partout, à transpirer, à sauter dans les gens avec un trampoline. Et entre les 3-4 jours qu'il y a entre chaque date, on retourne à Paris et c'est mode geek. Voilà, c'est vraiment le côté Chaka Punk.
Il y a le côté scène et le côté devant les ordinateurs.
C'est deux extrêmes, comme le punk et le bouddhisme.
Et les deux, et du coup, le dernier album a vraiment été fait
comme ça.
Sur la dernière tournée. On sortait des concerts et on se branchait la carte son dans le bus et on enregistrait des trucs, on les laissait dormir et puis le lendemain on finissait le disque. Et du coup on a fait un disque comme Dion sans encore une fois se poser trop de questions, mais en essayant de faire un truc différent de celui d'avant qui avait déjà pas mal marché et en prenant en fait toute l'ambiance positive et festive qu'on recevait du public. Parce que pour la première fois avec l'album précédent, on avait des salles pleines. Alors qu'avant, on avait des salles totalement vides.
Je pense que les choses évoluent et je pense que le mot même alternatif, c'est un petit peu une sorte d'étiquette que les gens nous posent sur la figure ou pas. Nous, on fait ce qu'on aime déjà. Après, si ça plaît à des gens, c'est bien. Si ça plaît pas, tant pis. Je crois que le but, c'est d'avoir une certaine intégrité, de faire ce qu'on aime. Et je crois que c'est ce qu'on a envie de faire. C'est très instinctif. Et après, s'il y a plus de gens qui aiment, ça pourrait, par malheur, devenir à la mode. Ce serait horrible. Je rigole. Non, mais c'est le mot alternatif. Parfois, c'est un peu snob, je trouve. Mais ça peut être mal. C'est-à-dire que le principal pour nous, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Après, si les gens veulent l'appeler alternatif ou quoi que ce soit, ça nous touche assez peu, quoi.
C'est de la merde.
L'ancien album, moi, je l'ai acheté à la Fnac parce que j'avais envie de l'acheter. Et il était à côté de celui de Céline Dion, à la variété française. Je précise.
Oui, ils savent pas classer, quoi.
Faire de l'alternatif.
Attends, je comprends. T'as acheté le propre album de Chaka Punk?
Ouais.
D'accord.
Ouais.
On a un ego énorme.
Parce qu'avant, on vendait moins que maintenant.
Ah oui, donc fallait aller à la Fnac rentabiliser.
Bah en fait, il y avait 10 ventes et Yon en faisait partie.
C'est vrai que puisqu'on cite la Fnac, moi, je suis désolé, je vais sortir le dossier. C'est vrai que passé un temps, la Fnac renvoyait les CD si ça se vendait pas, donc fallait continuer à acheter. Ouais, t'as raison.
Ça t'arrive, ça, sur le premier.
Quoi, ça a changé?
Ça n'a pas changé, ils sont en train de déstocker. Mais vous avez raison de sortir un DVD, c'est ce qui restocke, quoi.
Voilà, exactement. Donc là, 10 jours de vacances, quand vous posez vos valises comme ça, c'est dans quel coin? C'est vraiment Paris, on y reste ou vous allez à la plage?
On ne sait pas parce que ça arrive jamais. Alors. On pourra te le dire dans deux semaines.
Moi, tout à l'heure, on m'a proposé d'aller au Québec. Ah, parce que j'ai dit, putain, je ne sais pas où aller. Et je vais peut-être partir au Québec. Ah, et je suis assez contente. Quelqu'un que je connais pas.
Des ça fois, va être drôle. Des fois, au gré des rencontres qu'on fait, comme Bertrand ou d'autres en festival, on a des invitations sympas. Quoi. Genre, il y a les Massilia. Je sais qu'on a un petit pied. On pourrait passer un peu de temps à Marseille. À Marseille, pour faire plaisir.
À Marseille ou à la Ciotat, du côté de chez Moussu.
Ouais, vers là-bas, exactement.
Bah, les rencontres de Massilia, ça s'est fait en déboîtage de chambres dans les hôtels ou juste en arrière-scène? Non, pas de la vôtre.
Non, on les a rencontrés sur un festival.
Festival, rencontre de festival.
Et alors, ça donne quoi, Chaka Ponk et Massilia? Parce que Chaka Ponk et White Star, encore, je peux conceptualiser, mais.
Bah c'est surtout on est assez potes, surtout c'est en délire, on boit des verres ensemble, enfin pour l'instant c'est plutôt ça.
Il y a pas grand chose d'artistique, c'est plutôt alcoolique.
Artistique, on n'a jamais vraiment échangé, c'est plutôt alcoolique.
Tant que ça reste en hic, c'est pas mal.
Vous voyez changer de vie complètement un jour et passer dans une vie totalement normale?
C'est quoi cette question?
Parce que pour toi, la vie
c'est
normale, c'est
pour la boîte à violaines.
C'est ce que je me disais, ça pue la boîte à violaines. Mais c'est pas la boîte, c'est le chapeau. Attends, jingle.
Ah, vas-y.
Et maintenant, la question à Violaine. La question à Violaine.
Alors derrière ce truc là, il y a une question que tout le monde pioche dans le chapeau. Vous allez en prendre une chacun et une chacune et puis on en rediscute, quoi.
Oui, on a de la chance, comme là il y en a trois, ça fait trois questions, quoi.
Voilà.
La question à Violaine.
On va commencer par
Les femmes d'abord, Yann, la galante.
Sam.
Ouais, de galant, quoi.
Sam.
C'est gentil, dis donc. Ça existe encore, ça?
Alors t'es en France, tu peux la faire en anglais aussi si tu veux. Là, on prend l'anglais.
La qualité que je préfère chez une femme. Ça tombe bien, ça. Allez, l'intelligence.
Facile, hein, la réponse.
Ouais, facile, je sais.
Pas très alternatif.
Pas super alternatif.
La jalousie ou...
Et la qualité que je préfère chez une femme, elle est justement, intelligence, peut-être parce que j'en ai pas. C'est horrible, c'est horrible.
La modestie.
Non, je sais pas.
Tu t'aimes bien les femmes déjà, donc tu
vas savoir. Bah ouais.
Tu préfères l'intelligence. Tu m'as pas toujours dit ça. Oh le cul qu'elle a, celle-là.
On va vous laisser, hein, si vous voulez.
Ok, excusez-moi,
carte blanche.
La suite.
Allez.
La qualité des hommes? Non.
Coquin. Mes héroïnes dans l'histoire. Alors, il y a plein de trucs à dire. Déjà, on pourrait dévier sur l'héroïne. L'héroïne dans l'histoire du rock. Ça, c'est une saleté. Hein. C'est une saleté, ça. Voilà. Donc, en fait, voilà, on pense que l'héroïne et la drogue, c'est très, 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 très compliqué parce que c'est trop cher. Je plaisante. C'était une blague.
J'espère bien.
Non, on est vraiment le groupe anti héroïne.
D'accord, c'est pour
drogue,
ça que vous...
Donc
c'est
on est
dans ce cadre-là que vous remerciez la sécurité en fin de concert.
Exactement, on
j'ai
est
bien compris.
Mais souvent c'est vrai, dans le côté justement, mais alors je rebondis sur l'héroïne et tout ça et ce qu'on parlait des punks tout à l'heure qui sont quand même des mecs assez branchés drogue, on va tous mourir parce qu'on prend trop de drogue. Nous, on est ridicule parce que avec un groupe qui s'appelle Chaka Ponk, on fait quand même des jogging avant d'aller sur scène. Donc, on passe pour des bouffons. Et voir les mecs, non, on n'en croit pas leurs yeux. Donc,
comment t'avais appelé la dernière fois quand tu courais?
Forrest Gump.
Oh, pardon.
Non, Forrest Gay. Parce que j'avais un t-shirt
Gay Monkey.
Ah, bah, j'ai toujours un t-shirt Gay Monkey. Et il y a un mec qui fait « Ouais, c'est Forrest Gump !» Et non, il y a un mec qui fait « Ah, c'est Forrest Gay !» Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on peut être des punks et pas prendre d'héroïne, et ni rien d'ailleurs, et faire des jogging.
Moi je veux dire, il y a un ras-le-bol des odeurs d'herbe sur scène, c'est pas possible quoi, tu vois.
Ouais, on va passer le message au technicien côté court.
L'héroïne dans l'histoire du
rock. Mais Yann n'est pas technicien.
Pardon.
Dernière question.
Mais Yann alors, tu prends trop de...
Devant le micro, devant le micro, devant le micro, on a la radio là.
Qu'est-ce que j'apprécie le plus chez mes amis?
C'est incroyable ces questions de Violaine. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est truqué. Des questions très rock, quoi.
Écoute, genre à Berlin, avec des vrais amis, ce qui était important, c'est la sincérité. De quand tu pars un peu en couille, un vrai pote, il sait te rentrer un peu dedans et te remettre sur le droit chemin.
Mais t'as vu, ça veut dire que je suis ton ami, alors je te rends tout le temps dedans.
C'est important.
Je t'aime.
On est super potes avec Sam.
Ça gueule tout le temps.
Moi je pensais que t'allais dire l'intelligence et l'héroïne, mais non.
Et puis alors après, bien sûr, là,
ça peut sembler paradoxal.
Forcément, un bon ami se juge à ce qu'il t'apporte en drogue et.
Alors c'est de l'humour, hein, encore
non,
une
c'est
fois,
de l'humour, attends, précisons quand même, non, parce que
souvent après ils font bon merci Chaka Pong, au revoir, et puis là t'as le jingle et c'est la France.
Merci Chaka Pong, au revoir.
J'ai déjà des petits tweets là qui saluent votre prestation à Floref. Il y a notamment celui de Audrey qui dit Chaka Pong, c'est l'énergie du métal avec la folie du punk et une touche d'électro, ça décoiffe Esperanza. Joli quand même.
Yeah.
Merci
pour le métal.
Au revoir, merci Chaka Pong.
Merci à vous.
Bop, bop.